Alors, bienvenue à ce moment d'étude. Vous avez déjà ouvert peut-être vos Bibles aux Hébreux, chapitres 4 et 5. Randy a déjà lu une partie de ce passage que nous allons étudier aujourd'hui. Juste pour vous dire, donc l'étude, la compréhension de l'Ancien Testament nous aide à comprendre de plus en plus l'œuvre de Jésus-Christ. Et quand nous lisons l'Épître aux Hébreux et quand nous voyons ce qui est là, nous comprenons de plus en plus que tout ce qui est dans cet Ancien Testament prépare les gens pour l'avènement du Christ et prépare les gens aussi de comprendre tout ce qu'il a pu faire à travers sa vie, à travers sa mort et à travers sa résurrection. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très difficile à lire dans l'Ancien Testament, mais fascinant dans le Nouveau Testament. C'est tout ce qui est au niveau de sacerdoce, c'est tout ce qui est au niveau de prêtre et tout ce qui est au niveau de sacrifice. Si jamais vous avez de la peine à vous endormir la nuit, vous prenez simplement le Lévitique, par exemple, vous lisez, et c'est vrai qu'après un certain moment, vous êtes bien fatigué et vous allez dormir comme il faut. Mais en lisant ces passages et en comprenant la sainteté de Dieu, les sacrifices, en comprenant le rôle des sacrificateurs, nous pouvons mieux voir qui est Jésus. Et donc notre texte aujourd'hui, c'est les Hébreux chapitre 4, des versets 14 jusqu'au chapitre 5, le verset 10. J'aimerais juste donc qu'on jette un coup d'œil et puis on soit attentif à cette lecture. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. En effet, tout souverain sacrificateur pris parmi les hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque lui-même est sujet à la faiblesse. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir pour lui-même, aussi bien que pour le peuple, des sacrifices pour les péchés. Nul ne s'attribue cet honneur, mais on y est appelé par Dieu, comme le fut Aaron lui-même. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est donné lui-même la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais c'est celui qui lui a dit, Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. De même, il dit encore ailleurs, Tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant proclamé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc voici ce passage. Je sais que c'est un passage compliqué, mais il faut savoir aussi que c'est un passage pour des gens qui sont de plus en plus adultes dans leur foi, à tel point que par la suite des choses, l'écrivain va dire, vous n'êtes pas prêt à accepter toutes ces différentes choses parce que vous désirez toujours du lait plutôt que de la viande. Et donc, c'est vrai qu'il faut s'accrocher pour bien comprendre ces choses, mais je vais quand même essayer de vous aider à comprendre, en tout cas, ce que moi j'ai compris à travers ce passage. La première chose que nous remarquons, c'est que Jésus est venu, et quand il est venu dans l'état d'un homme. Le mot Jésus, donc son nom, identifie Jésus comme Yahvé sauve, donc celui qui sauve, Dieu qui sauve à travers un être humain. Quand on parle de Jésus, spécialement dans les Hébreux, on est en train de parler de l'incarnation de Dieu lui-même, c'est-à-dire le Logos qui vient parmi nous, pour vivre parmi nous, pour accomplir son ministère. La deuxième chose que nous remarquons, c'est qu'il y a le sacrifice qui est là. Donc, il y a celui qui est venu dans la chair, Jésus, qui s'offre comme un sacrifice. Et cela, nous comprenons, cela se passe à la croix. Mais la troisième chose que nous remarquons, que c'est la résurrection et l'ascension de Jésus sont mises ensemble ici. Et il parle de Jésus qui est élevé à la perfection, qui traverse le tabernacle des cieux, on parlera de cela plus tard, et donc il est celui qui intercède pour nous à la droite de Dieu dans le règne. Il est le roi des rois, seigneur des seigneurs, et donc ici on parle aussi de son ascension. Et ces trois choses sont essentielles à comprendre. Son humanité qui est là, son sacrifice, et puis finalement le fait qu'il est à la droite de Dieu. Et ce qui rend cela magnifique, c'est que Jésus n'est pas seulement le sacrifice pour les péchés, mais il est aussi le sacrificateur. Il est le grand prêtre de tous les temps qui est là, qui intercède pour nous d'une manière parfaite et avec la compassion. Il est parfait, il n'a jamais péché, mais il a expérimenté quoi? La souffrance, la tentation et même la mort. Et donc, il comprend tout à fait les êtres humains. Et il peut être celui qui intercède pour nous, parce qu'il est non seulement un homme, mais il est le Fils de Dieu. Et donc, il a un rôle parfait, à la droite de Dieu, d'intercéder pour nous, comme sacrifice, comme prêtre, et comme si celui qui règne avec au-dessus de toutes choses. Tout le monde se souvient de l'appel de Moïse dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez, le buisson ardent, vous vous souvenez de cela, et Dieu qui parle, il dit, enlève les sandales, et toute cette histoire. Tout le monde se souvient que Dieu a donné à Israël Moïse. Mais peu de gens savent ou se souviennent que Dieu a aussi donné à Israël Aaron, qui est le frère de Moïse. Il a donné Moïse comme celui qui recevait un message de Dieu et le donnait au peuple. Mais il a donné Aaron au peuple comme celui qui présentait le peuple devant Dieu. Vous voyez les deux choses? Moïse, dans un sens, est un prophète qui intercède de Dieu jusqu'aux hommes, pendant que Aaron était celui qui intercédait des hommes jusqu'à Dieu. Et c'est ceci que nous comprenons que les deux ce rôle de descente et de remontée se trouve dans la personne de Moïse et aussi dans la personne d'Aaron. Mais Jésus est beaucoup plus que les autres. Il est mieux que les deux. Parce qu'il n'est non seulement celui qui descend avec un message de Dieu, mais il est celui qui ramène les êtres humains dans la présence de Dieu à travers son sacrifice et à travers sa prêtrise. C'est comme cela qu'on dit, n'est-ce pas? Son sacerdoce, okay? C'est comme cela qu'il fait. Donc j'aimerais juste qu'on regarde deux ou trois petites choses. J'aime bien expliquer des choses comme cela, mais j'aimerais faire quand même un parallèle. C'est-à-dire, il y avait l'idée d'être prêtre en Israël, okay? Donc on peut être prêtre en Israël. Mais j'aimerais juste mettre à l'autre côté, donc nous avons Jésus. Et on va regarder ce qu'ils ont en commun et ce qui les différencie les deux. Notons bien, la première chose que nous voyons, c'est qu'il dit « appelé par Dieu ».« Appelé par Dieu ». Et ce que nous remarquons, c'est que les deux, donc Jésus lui-même et Aaron lui-même, étaient appelés par Dieu. Appelés par Dieu, donc d'être des souverains sacrificateurs. Il faut savoir que Aaron n'a pas choisi ce rôle lui-même. Quand il a même choisi d'offrir des sacrifices, en prenant cette responsabilité sur lui-même, c'était un veau d'or, vous vous souvenez? Mais Dieu l'a appelé à être un prêtre envers lui. Et de la même façon, Dieu a appelé Jésus à être ce grand prêtre qui allait venir devant lui. Dans l'Ancien Testament, il y avait une lutte entre les familles pour devenir souverain sacrificateur. Il y avait, par exemple, une famille qui s'appelait Coré. C'est Q-O-R-E, accent. Et puis, c'est lui qui a dit, pourquoi c'est Aaron et sa famille qui offrent les sacrifices? Ça devrait plutôt être nous. Ils avaient d'autres responsabilités et ils voulaient faire cela. Et donc, à un moment donné, ce qu'on a fait, c'est que on a pris des encenseurs pour brûler l'encens. Ils ont pris ces choses, la famille de Corée, donc ils étaient 250, et la petite famille de Aaron. Et il fallait choisir entre les dieux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y avait la terre qui s'est ouverte. Il y avait donc la famille, les 250 qui étaient avalés dans cette terre qui est dans l'abîme. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y avait Aaron et sa famille que tout le monde a reconnu que c'était lui le vrai prêtre. Bon, il faut savoir que le peuple n'était pas très content de cela. Il trouvait que Dieu était injuste en faisant cela. Et Dieu les a punis par la suite. Mais nous remarquons qu'ils étaient choisis. Il y avait un roi qui s'appelait Ozias. C'est beaucoup d'années plus tard. Ozias a voulu offrir de l'encens dans le temple. Et donc, il a insisté. Les prêtres ont essayé de l'arrêter, mais lui, dans son orgueil, est entré dans le temple pour offrir cela. Il est entré dans l'endroit saint. Et au moment qu'il a offert, entré dans cet endroit-là, la lèpre s'est apparue sur lui. Et donc, il était séparé de son peuple. Dieu l'avait frappé de lèpre. Il y avait un culte à Bethel, commencé par un certain Jéroboam. Et lui, il avait choisi des prêtres qui allaient être les prêtres de Dieu. Mais il a choisi de toutes les familles cela. Et Dieu a donc rejeté ces gens qui se sont nommés eux-mêmes prêtres ou qui étaient nommés par le roi. Juste pour vous dire qu'il faut savoir qu'Aaron et Jésus, les deux, sont appelés à être des prêtres. Nous voyons que les deux pouvaient compatir aux souffrances. Ils pouvaient compatir aux souffrances, car les deux, étaient des êtres humains. Aaron a vécu la souffrance de 40 ans presque dans le désert. Il a vécu la souffrance de la persécution et du rejet du peuple de Dieu. Et de la même façon, Jésus a vécu la plénitude, jusqu'à la plénitude, la souffrance. Il a bu la coupe que Dieu lui avait donnée. Il est allé à la croix. Et à cause de cela, donc Aaron et Jésus, les deux, ou grâce à cela, les deux ont pu compatir à nos souffrances. Nous savons que ici, avec Aaron, c'était une fois par année qu'il pouvait entrer dans la présence de Dieu, dans le sein des saints. Mais ce que nous savons avec Jésus, c'est que lui, il vit maintenant dans la présence de Dieu. Et donc, la grande différence, c'est que avec Aaron, c'était une fois par année que cela se passait. Il pouvait entrer une fois par année où il y avait l'Arche de l'Alliance. Mais Jésus est toujours présent est toujours là dans la présence de Dieu. Nous remarquons aussi que Aaron a été tenté et quand il a été tenté, il a cédé. Plusieurs fois, il a cédé. Nous savons, quand Jésus a été tenté, quoi? Il a résisté. Et ce que j'aimerais que vous voyez là-dedans, c'est que vous voyez que non seulement il a résisté, mais que Jésus est allé au bout du plan que Dieu avait mis devant lui. Je crois qu'ici, il est en train de parler du fait que Jésus a eu plusieurs fois dans son ministère le choix de continuer jusqu'au bout dans sa mission ou d'arrêter. Vous vous souvenez que le diable lui a pris sur le temple. Et il a dit ici, saute et tout le monde, Dieu va te sauver. Vous vous souvenez, il a dit cela. Il dit, non, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Je vais établir le règne pour toi. Et Jésus a refusé cela. Il est allé jusqu'au bout des choses. Il a dit, change ces pierres en pain. Et Jésus a refusé. Il a dit, je dois vivre selon la parole de Dieu. Jésus a résisté contre les tentations jusqu'au bout pour accomplir la mission qui était là. Et ceci est important pour ces Hébreux qui ont reçu cette lettre parce qu'ils sont tentés de ne pas aller jusqu'au bout de leur mission. Ils sont tentés de ne pas vivre l'histoire jusqu'à la fin parce qu'ils sont dans la persécution, ils sont dans les difficultés et il y en a qui veulent renoncer. Mais il dit non, vous avez un prêtre qui comprend comment vous vivez, et lui, il a résisté jusqu'au bout. Nous voyons que ici, qu'on a pu entrer dans la présence de Dieu, dans la crainte. Il faut savoir que chaque fois que le prêtre allait devant Dieu, c'était dans la crainte, quand il allait dans le tabernacle. Nous voyons ici que Jésus entre dans la présence de Dieu, donc avec courage. Et à cause de cela, nous avons la possibilité donc d'aller devant Dieu et d'être dans sa présence avec courage. Nous pouvons le faire entrer dans cette grâce de cette manière. Le prêtre, il offre un sacrifice. Okay. Jésus, il est le sacrifice. Pardon. Ceci est la grande différence entre les deux. Le prêtre offrait un sacrifice qui était parfait. Jésus est le sacrifice parfait qui est donné. Le prêtre ne devait pas avoir de défaut physique. S'il avait un bras qui était paralysé, s'il était déformé, il n'avait pas le droit donc d'entrer dans le tabernacle ou d'entrer dans le temple pour être dans la présence de Dieu. Et donc, il devait être parfait physiquement, si on veut. Mais Aaron, lui, pardon, Jésus est parfait en tout. Il a même ce qu'on appelle une parfaite obéissance. Et donc, il est sans tache, et celui qui peut enlever les différents péchés que nous avons. Et puis, nous savons, dernière chose, j'ai plus de place. Ici, il entre dans un temple physique, ou un tabernacle physique, et ici, nous avons un tabernacle qui est céleste, qui est dans la présence de Dieu. Donc, nous remarquons dans ces deux choses, nous voyons que la supériorité de Jésus est soulignée. Et le plus qu'on lit l'Ancien Testament et on comprend les sacrifices, les sacrificateurs, le plus que nous sommes frappés par la grandeur de Jésus. Il y a une autre chose qui est donnée, c'est que tout prêtre en Israël devait être descendant d'Aaron. Descendant d'Aaron. Mais Jésus est descendant de Melchizedek. C'est-à-dire, il a le service de sacrificateur qui n'a ni un début ni un fin. Et l'écrivain aux Hébreux va décrire cela par la suite. Quand vous regardez donc les qualités de Jésus, vous voyez qu'il est venu dans notre chair. Et notre texte dit qu'il est venu avec des pleurs, il est venu avec des prières, il a pris l'obéissance. Et il a souffert. Et ce que l'écrivain essaie de faire, c'est que il passe exactement par les choses que vous vivez maintenant. Il dit, vous pleurez dans vos souffrances et dans la persécution. Ben, Jésus a fait la même chose. Il a pleuré pour son peuple qu'il avait refusé. Il a pleuré dans le jardin au moment où il devait faire face à la croix. Qu'il a s'adressé à Dieu par la prière plusieurs fois. Et donc, un être humain a besoin de prier et Jésus avait besoin de faire cela et vous faites la même chose. Que Jésus a appris l'obéissance à travers son humanité, c'est-à-dire à travers tout ce qu'il a vécu. Il a toujours compté sur Dieu. Et donc, il encourage les chrétiens à faire la même chose. Et que Jésus a souffert physiquement, mentalement, émotionnellement, et spirituellement. Mais il a tenu bon. Il comptait sur Dieu. Pourquoi est-il prêtre? Il est prêtre parce qu'il est le Fils de Dieu. Et là, il cite deux passages de l'Ancien Testament, le psaume chapitre 2, le verset 7. Le psaume 2, il a déjà cité. Et puis le psaume 110, où il devient le grand prêtre parce qu'il est le Fils qui donne sa vie. Le devoir de Jésus comme prêtre, c'est d'agir en faveur des hommes devant Dieu, de faire des offrandes et des sacrifices, et de devenir l'auteur et la source de notre salut. Et donc, il finit en disant que nous avons un intermédiaire parfait. Il est fils de Dieu en partageant la nature de Dieu et il est un homme. Il agit comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ l'homme. Et c'est pour cela qu'on n'en a pas besoin d'un autre, qu'il est celui qui fait le nécessaire. Jésus qui est celui qui est resté fidèle jusqu'au bout. Et quel est son conseil? Alors, vous pouvez juste le regarder au chapitre 4, le verset 14. Son conseil au verset 14, c'est ceci. Tenons fermement la confession de notre foi. Tenons fermement la confession de notre foi. Cette confession pour ces gens, c'est que Jésus est venu, a vécu parmi nous, que Jésus a donné sa vie, qu'il est ressuscité et monté au ciel. Et à travers toutes les pressions de la vie et toute la persécution, il devait se rendre compte, il devait se rappeler que il pouvait tenir bien cette confession de foi. Cette confession, sans doute donnée au moment de leur baptême, cette confession qui était aussi donnée chaque fois qu'ils chantaient et qu'ils priaient ensemble, comme une ancre qui tient le bateau à travers les tempêtes, c'était leur confiance et leur foi en Jésus qui devait régner. Et puis, la deuxième chose, c'est pas simplement tenir fermement la confession, mais au verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Quand nous lisons ce petit passage-là, il y a trois choses que nous remarquons. Première chose, c'est, il dit, approchons-nous donc avec assurance. Et donc, c'est l'idée ici que nous ne devons pas vivre dans la crainte des Israélites de s'approcher du temple. Eux, ils n'avaient pas le droit de traverser ceci ou de traverser cela. Nous vivons avec un grand respect de Dieu. Nous le craignons. Mais nous ne craignons pas d'être près de lui parce que Jésus a fait le nécessaire pour que nous soyons là. Et donc ça, c'est la première chose. Nous pouvons faire cela avec assurance. La deuxième chose qu'il dit, c'est un trône de grâce. C'est-à-dire, il est le roi, mais c'est un roi qui accueille, c'est un roi qui pardonne, c'est un roi qui dit aux gens qui viennent à lui en Jésus que vous êtes les bienvenus. Et puis la dernière chose que nous savons en regardant cela, c'est que il est celui qui sauve. Okay? Il vient au moment qu'il faut pour nous sauver. Notons aussi dans notre petit texte là qu'il dit approchons-nous donc avec assurance. Bon, nous nous approchons à Jésus pour le pardon, mais nous nous approchons aussi à lui par la prière. Nous nous approchons à lui à travers des cris, à travers des souffrances, à travers des difficultés. Et je crois que ce que nous avons ici, c'est vraiment un encouragement de ne pas oublier à prier et de venir à Dieu dans ces difficultés. Approchons donc nous avec confiance. Donc, retenons fermement notre confession et approchons-nous donc avec assurance du trône de Dieu. Jésus, c'est le prêtre, mais il est aussi le sacrifice. Il est celui qui offre son propre sang au temple pour que nous puissions être dans une nouvelle relation avec lui. Jésus, donc, qui est toutes ces choses? Il est le prêtre, il est le sacrifice, et à un moment donné, il est aussi le temple qui nous permet d'être en relation avec Dieu. Jésus n'est plus ici. Vous le savez, physiquement, n'est plus avec nous. Et peut-être c'est pour cette raison que nous voyons dans les Écritures que nous aussi, nous sommes des prêtres pour Dieu. Cela, on trouve dans 1 Pierre. Il dit que vous êtes un peuple de prêtres. Autrefois, on appliquait cela à Israël. Maintenant, on applique cela à l'Église de Dieu. Nous sommes aussi des sacrifices vivants, dit Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. Et donc nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, qui est un culte agréable à notre Dieu. Et non seulement cela, nous formons individuellement et ensemble un temple spirituel de Dieu, un temple spirituel. N'aimez-vous pas cette idée que dans l'Ancien Testament, on parle d'un tabernacle ou d'un temple, on parle des prêtres et on parle des sacrifices, et qu'en Jésus, nous avons la réalisation de tout cela, mais nous pleinement, nous participons à cela, car nous sommes aussi un peuple de prêtres, que nous offrons nos vies comme des sacrifices vivants pour notre Dieu, et que nous sommes donc aussi des temples de Dieu par l'Esprit. Ensemble, nous sommes un temple et individuellement. Tout cela pour dire ceci, nous devons continuer dans l'obéissance et la fidélité. C'est le but de cette lettre, c'est de continuer dans l'obéissance et dans la fidélité. Car il y a des souffrances, il y a des tentations, il y a des doutes qui viennent, mais nous tenons ferme notre confession et nous nous approchons du trône de grâce avec assurance, en sachant que nous avons un souverain sacrificateur qui s'appelle Jésus, le Fils de Dieu.